Manuscrit 56. Les objectifs de notre œuvre médicale. La tâche de préconiser les principes de la réforme sanitaire ne doit pas être laissée au hasard, car elle est profonde, large, haute. C'est un travail essentiel et dont les résultats concrets font la crédibilité. Ce n'est pas parce que nous sommes des réformateurs de la santé que nous devons attaquer les habitudes et coutumes des autres. Ceci serait un assaut trop direct aux dieux qu'ils adorent. Au lieu de cela, nous devons offrir quelque chose de meilleur. Pourquoi avons-nous établi des institutions de réforme sanitaire? Pour offrir une démonstration des principes que nous préconisons. Les anges du ciel sont très attentifs à ceux qui combattent le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Notre Sauveur observe avec intérêt la lutte entre les forces du bien et du mal. Satan agit constamment pour offrir des intérêts qui absorberont les pensées des hommes au point qu'ils éliminent l'éternité de leurs calculs. Ceux qui occupent des postes à responsabilité sont tellement absorbés par les affaires courantes et mondaines qu'ils n'ont pas le sentiment de leurs besoins spirituels. C'est pourquoi le Seigneur a dirigé l'établissement d'institutions selon un plan complètement différent des projets du monde. C'est la volonté de Dieu que des sanatoriums soient ouverts. Ces institutions doivent être administrées selon les principes de l'Évangile. L'Évangile doit donner son caractère à tout sanatorium établi par les adventistes du septième jour. Chaque sanatorium établi parmi eux doit devenir un Bethel. Ceux qui sont engagés dans cette branche de l'œuvre doivent être consacrés à Dieu. La lumière qui brille sur la réforme sanitaire doit être donnée au monde. Éduquez, éduquez, éduquez au sanatorium et en dehors. Conduisez tous ceux avec qui vous entrez en contact à penser à Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Les adventistes du septième jour ont une mission spéciale à accomplir en construisant des sanatoriums dans notre monde, selon que les besoins se présentent. Ces bâtiments seront petits ou grands, selon ce qu'exige la situation et les circonstances du milieu. Notre œuvre doit être dynamique et entourer le monde. La mission du peuple de Dieu est d'illuminer le monde, selon les instructions données dans le chapitre 58 d'Ésaïe. On nous présente ici le plan de travail qui doit être suivi, partout où la vérité prend possession des esprits et des cœurs. En même temps que la proclamation du message, il faut travailler à soulager et aider les familles en détresse. Ceux qui prennent position du côté du Seigneur doivent voir chez les adventistes un peuple chaleureux, altruiste, qui se sacrifie, qui s'occupe de bon cœur et avec joie des nécessiteux. Nous devons aider surtout ceux qui souffrent pour avoir eu la force morale d'accepter la vérité. Les personnes qui sont rejetées doivent recevoir notre attention. Cependant, le Seigneur n'a jamais confié et ne confiera jamais aux adventistes du septième jour la tâche de s'occuper de tous les dépravés, des ivrognes et des prostituées. Dieu a donné des directives pour qu'on établisse des sanatoriums en différents endroits. Ces institutions doivent être ses instruments pour toucher un certain public qu'on ne pourrait atteindre autrement. La lumière de la vérité doit resplendir dans les sanatoriums. Le sanatorium doit être un mémorial pour le Seigneur, un témoin de l'efficacité de la vérité. Ceux qui viennent à l'institution doivent y voir que le début de la sagesse, c'est la crainte de Peutemel. Proverbe 9, verset 10. Si la bannière de la vérité n'est plus le drapeau honoré et respecté de l'institution, le Seigneur lui retirera sa force protectrice. Le travail que doivent accomplir nos sanatoriums est celui d'œuvrer pour le salut des hommes et des femmes qui viennent y recevoir des traitements. Les conduire à croire en la vérité est le travail que doivent accomplir toutes nos institutions. Si on ne pouvait faire cela dans nos sanatoriums, pourquoi investirions-nous dans leur construction? En tant que messagère de Dieu, je dois dire à notre peuple que nous ne devons pas encourager nos jeunes à venir à Battle Creek pour recevoir une éducation. Pères et mères, pâme de vos enfants est précieuse, et les avertissements que Dieu a donnés de ne pas envoyer nos jeunes hommes et jeunes filles à Battle Creek ont maintenant deux fois plus de force que dans le passé. Il y a des écoles en dehors, et même loin de Battle Creek, où le danger de perdre le respect pour les témoignages qui ont été donnés au peuple de Dieu durant les 50 dernières années est bien moindre. Parents, il vaudrait mieux que vos enfants restent à la maison plutôt que de se mêler à cette multitude de personnes qui ne croient pas en la vérité. L'éducation qu'ils recevraient en de tels endroits serait tellement entremêlée de sentiments représentés comme du bois, du foin, du chaume, 1 Corinthiens 3, verset 12, que la vérité perdrait de sa force sur leur esprit, au moment même où ils auront besoin que la vérité soit confirmée. Le Seigneur ouvrira, oui, il ouvre déjà les portes des endroits où vos enfants pourront recevoir une instruction dans le champ missionnaire médical, sans mettre leur âme en danger. Si la formation dans ces instituts n'est pas aussi complète qu'à Battle Creek, elle peut faire autant que ce qui a été fait au début de l'œuvre à Battle Creek. Nous n'avions alors pas les conditions adéquates pour envoyer des médecins complètement qualifiés. Dans peu de temps, nous aurons les installations pour remplir les conditions nécessaires. À supposer que, pendant un temps, les étudiants ne puissent pas devenir des médecins totalement qualifiés. Ils peuvent travailler en coopération avec d'autres médecins et, s'ils suivent les directives du Seigneur, de bonnes opportunités se présenteront à eux afin d'obtenir une expérience peut-être même meilleure que celle acquise avec un diplôme. C'est la valeur réelle d'un homme qui lui procurera l'occasion de se distinguer et d'exercer son influence. L'infirmière ou le médecin qui travaille avec le Seigneur Jésus réussira. Lisez l'histoire des enfants d'Israël, telle que relatée dans le livre de l'Exode, et que chaque âme se place entièrement aux côtés du Seigneur. L'expérience des Israélites doit être étudiée par le peuple du Dieu vivant en ces derniers jours. Beaucoup de gens en notre monde sont esclaves d'habitudes d'intempérance qui détruisent l'âme et le corps. Dieu désire que, dans nos sanatoriums, ces personnes apprennent une meilleure manière de vivre. Sous l'influence de la vérité de la Bible, beaucoup seront gagnés au Christ. Le message du troisième ange doit être proclamé dans tous les endroits du monde. Nos sanatoriums sont un des moyens par lesquels la vérité doit être présentée à ceux qui ne la connaissent pas. Il faut atteindre les gens là où ils se trouvent. Sur les routes et les sentiers, l'invitation au grand banquet doit être lancée. Tous doivent entendre l'invitation au banquet préparé pour eux à un coût infini. Alors que les incroyants seront amenés sous l'influence de la vérité, les anges de Dieu toucheront leur cœur. La raison principale pour laquelle nous avons des sanatoriums est pour que ces institutions puissent être des instruments qui conduiront les hommes et les femmes à un point où ils puissent être comptés parmi ceux qui, un jour, mangeront les feuilles de l'arbre de vie qui servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Apocalypse 22, verset 3. Nos sanatoriums sont établis comme des institutions où les patients et les employés peuvent servir le Seigneur. Nous désirons encourager le plus grand nombre possible à faire individuellement leur part pour vivre sainement. Nous voulons encourager les patients à éviter l'usage de médicaments toxiques et à les remplacer par des remèdes simples fournis par Dieu, comme l'eau, l'air pur, l'exercice et l'hygiène générale. Nos sanatoriums ont pour tâche d'atteindre les classes les plus élevées de la société. Ce travail doit se faire non pas en nous unissant à elles, ni en leur offrant des divertissements, mais en révélant la puissance de la vérité pour transformer le caractère. Chaque être humain sanctifié par sa foi en la vérité devient porteur de la lumière de Dieu devant le monde, sa main secourable pour rétablir les âmes arrachées de la transgression. Il est un missionnaire médical de Dieu. Nous devons apprendre du Christ la science du salut des âmes. Il est le guérisseur suprême. Dans nos efforts pour prêcher l'Évangile, nous devons établir des petits sanatoriums en plusieurs endroits. Cette œuvre est un des moyens les plus efficaces pour présenter le message du salut en Christ à l'attention d'une grande classe de personnes qu'on ne pourrait atteindre autrement. Les personnes de cette classe sociale viennent à nos sanatoriums pour recevoir des traitements et, après leur séjour, partagent avec d'autres les bénéfices qu'elles en ont reçus. C'est ainsi que d'autres personnes auront le désir de venir. le plan de Dieu est que nos sanatoriums jouent un rôle important dans la diffusion du message du prochain retour de Jésus sur les routes et les chemins. Nous devons accomplir un travail missionnaire médical dans les nouveaux territoires où l'œuvre de Dieu est encore à établir. Ce travail élimine les préjugés et prépare la voie à la proclamation du troisième ange. C'est le moyen par lequel les portes s'ouvrent à l'acceptation des vérités particulières pour notre époque. L'œuvre missionnaire médicale et l'Évangile ne font qu'un. Unis, ils forment un tout complet. En donnant au monde le message du troisième ange, l'objectif de Dieu est de préparer un peuple qui lui demeurera fidèle durant le jugement investigateur. Tel est le but pour lequel nous établissons et maintenons nos maisons d'édition, nos écoles, nos sanatoriums, nos restaurants d'aliments sains, nos salles de traitement et nos fabriques d'aliments. Tel est notre but en menant notre tâche dans chaque branche de notre œuvre. Les sanatoriums qui seront établis doivent être des monuments de Dieu, des instruments dans la conversion de nombreuses âmes. Nos sanatoriums ont été établis dans le but de préparer un peuple pour le retour de notre Seigneur et Sauveur. Le monde entier est la vigne du Seigneur, et il désire qu'on y travaille dans chaque parcelle. Ceux qui ont été choisis pour être intendants des biens du Seigneur doivent s'assurer que tout est bien administré afin d'assurer à Dieu une rentabilité maximale. Un gérant prudent ne choisira pas quelques parcelles de la vigne pour y investir tous les moyens que le Seigneur a fournis pour tout le champ. Il ouvrira les yeux de son entendement pour voir le besoin d'égaliser les efforts et que l'on puisse constater partout la beauté, l'harmonie et la solidité. « C'est l'esprit égoïste qui en conduit beaucoup, a dit le maître qui nous instruisait, à tout faire pour une tâche qui se trouve sous leur propre supervision, afin qu'ils puissent enrichir leur partie de l'œuvre au détriment des autres parties. C'est un aspect de l'égoïsme que beaucoup ne discernent pas. On investit trop à un endroit du monde, comme s'il s'agissait de la seule partie où le Seigneur, de la vigne, désirait que l'on travaille. Le Seigneur veut qu'il ne se trouve dans cette œuvre pas un seul brin d'égoïsme. Le travail de chacun doit être fait en tenant compte de ses collaborateurs, car tous ont une tâche assignée dans cette œuvre. Le vignoble doit être cultivé, les vignes doivent être plantées, afin que la récolte puisse être rassemblée. Chaque homme n'a pas reçu la même tâche, et le travail doit être accompli avec abnégation dans les différentes branches. L'esprit des ouvriers doit être d'abord modelé par Dieu au moyen de ses instruments choisis. La parole de Dieu doit être communiquée aux hommes afin qu'ils reçoivent des suggestions et des méthodes pour travailler dans le champ de manière à offrir au Seigneur le meilleur rendement de toutes les parcelles de sa vigne. Le Seigneur voit que tout penche trop en faveur de l'œuvre médicale, alors que le travail dans les autres branches est géré de manière à transmettre une mauvaise impression qu'il sera difficile d'effacer de l'esprit. Ce que nous appelons l'œuvre missionnaire médicale amasse dans ses filets de bons et de mauvais éléments et, dans une proportion plus importante, ces derniers ne pourront être vainqueurs par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il est donc vraiment nécessaire que, devant ceux qui sont avilis, nous maintenions la loi de Dieu en tant que norme de justice. Notre bannière doit être « sainteté à l'Éternel ». Autrement, le travail pour secourir ces personnes diminuera leur conception des impératifs divins concernant l'édification pratique du caractère. On ne doit pas trouver une classe de chrétiens bon marché qui, comme Moab, gardent leur arôme pour eux, du fait qu'ils n'aient changé ni de récipient, ni de caractère. Le moment est venu pour nous d'avoir une compréhension claire de ce que comporte le travail missionnaire médical, de ce qui sera présenté par écrit ou de vive voix, et de ce qui sera discrédité ou exalté. Alors que nous écoutons le flot du raisonnement humain, il sera évident que le caractère soit déterminé par l'œuvre interne de la grâce sur le cœur. Si la loi de Dieu est écrite dans le cœur, les hommes prouveront l'excellence de leur résolution. Leur conduite sera à la ressemblance divine. La parole de Dieu ne donne aucune approbation à ceux qui croient que le message du troisième ange les autorise à penser qu'ils peuvent se séparer. Vous pouvez en être sûr pour toujours. Ce sont les inventions d'esprits non sanctifiés qui encourageraient la désunion. Les sophismes des hommes peuvent paraître justes à leurs propres yeux, mais ils ne sont ni vrais ni justes. Les enfants de Dieu constituent un tout uni en Christ, qui nous présente sa croix comme le pôle d'attraction. Tous ceux qui croient sont un en lui. Les sentiments humains pousseront certains à vouloir faire les choses par eux-mêmes, et l'édifice en sera alors déséquilibré. Par conséquent, le Seigneur emploie différents dons pour que le bâtiment soit symétrique. Pas un seul trait de la vérité ne doit être caché ou peu considéré. Dieu ne peut être glorifié à moins que l'édifice ne soit bien coordonné et ne devienne un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, verset 21. Il s'agit ici d'un sujet important, et ceux qui comprennent la vérité pour notre temps doivent prêter attention à la manière dont ils écoutent et à la manière dont ils édifient et apprennent la mise en pratique. Il m'a été montré que trop de temps est accordé à la mission médicale, que ce travail est trop absorbant, ce qui pourrait provoquer la faillite de la conférence générale, comme c'est presque le cas maintenant. Ceux qui ont construit les établissements scolaires et les sanatoriums ont fait preuve d'une mauvaise gestion, alors que la conférence générale avait déjà des milliers de dollars de dettes. Si ces hommes avaient eu une vision sanctifiée, ils se seraient rendus compte que l'argent utilisé pour ces projets était nécessaire dans les champs étrangers. Ces questions exigent une considération minutieuse. Il est des champs blancs et mûrs pour la moisson, et cependant, la bannière de la vérité n'y a jamais été hissée, bien que le besoin ait été présenté au peuple. La vigne englobe le monde entier, et il faut travailler dans chacun de ses recoins. Les ouvriers de Dieu doivent considérer les choses avec prudence et, les yeux oints du collier divin, ils doivent voir les champs dépourvus aux États-Unis comme au loin. En faisant cela, ils seront frappés de constater tout ce qui reste à faire. L'œuvre missionnaire médicale est aussi nécessaire dans cette partie du monde qu'aux États-Unis. Si nous avions ici, en Australie, un quart de l'argent que vous avez eu à votre disposition à Battle Creek, nous aurions pu placer ceux qui ont reçu une formation médicale là où ils auraient travaillé avec profit. À la demande du docteur Kellogg et de Archibald R. Henry, la conférence générale a établi une institution à qui a coûté 80 000 dollars. 20 000 dollars auraient permis d'établir un sanatorium ici, et les frères d'ici auraient donné des fonds dans les limites de leurs possibilités pour meubler le bâtiment. Ceci nous aurait fait avancer de plusieurs années par rapport à où nous en sommes maintenant. Dieu voit tout cela. Le Seigneur n'agit pas avec partialité. Il y a à faire en Australie un travail que vous avez négligé afin de multiplier vos avantages aux États-Unis. Dieu vous dit, en Amérique, réduisez vos intérêts croissants. Partagez vos installations avec ceux qui ont besoin de votre aide afin d'établir l'œuvre dans les parcelles démunies de la vigne. C'est le message que Dieu me donne pour vous qui travaillez si dur dans une branche, au détriment d'autres champs qui sont prêts pour le travail. Les adventistes du septième jour n'ont pas assez de ressources pour soutenir une œuvre aussi étendue. Les ouvriers d'autres régions du monde ont besoin de moyens pour se préparer à travailler en d'autres endroits. L'intention de Dieu est que les régions qui disposent de bonnes installations partagent leurs avantages avec les champs plus démunis. Tel est le principe à toujours observer dans toutes nos institutions. Dieu demande qu'il y ait moins de planification et de projets de construction aux États-Unis et à Battle Creek et que des moyens soient envoyés dans les champs où il n'y a rien sur quoi compter et où le travail est mené dans la précarité, faute de ressources. Mais l'esprit de l'égoïsme s'est manifesté dans le fait d'avoir autant centralisé. Dans les champs où il y a déjà des installations en abondance, les ouvriers ont mobilisé toutes les ressources possibles. À nouveau, je dis à ceux qui ont de l'influence, accomplissez le travail qui a été négligé.
Si le sanatorium colossal de Battle Creek avait été divisé et subdivisé, et si sa force avait été distribuée en différentes parties de la vigne, où la vérité n'est pas encore représentée, cela aurait plu beaucoup plus au Seigneur. Il n'approuve pas l'esprit et les méthodes qui ont retenu les ressources nécessaires à un pays dans un si grand besoin comme l'Australie. Il y a sur le terrain des hommes capables, des hommes d'expérience, mais ils ne peuvent accomplir la moitié de ce qu'ils pourraient faire si le sanatorium avait été construit et prêt à recevoir des patients. On a permis à cette œuvre, qui exige beaucoup d'argent pour maintenir ses opérations, de consumer les moyens que Dieu désirait voir employés pour ouvrir de nouveaux champs et pour planter la bannière en de nouveaux territoires, dans des parcelles en friche de la vigne. Docteur Kellogg, vous avez investi tellement d'argent en un seul endroit
que ceci a entravé le travail en d'autres régions. Le Seigneur ne vous a pas dit de porter seul ce fardeau dont vous vous êtes chargé, fardeau qui vous a empêché de réaliser l'œuvre qui exigeait votre attention. La décision d'accomplir un travail qui avait été négligé, un travail que toute l'Église unie aurait pu faire, vous a conduit au départ à porter ce fardeau. Mais vous êtes allé trop loin. Vous avez fait en sorte que cette tâche constitue tout le corps, au lieu d'être seulement le bras et la main du corps, et y avez consacré indûment toutes vos énergies. Durant les 50 dernières années, le Seigneur m'a donné des instructions sur la manière de faire avancer son œuvre. Il faut organiser des camps meetings, des conférences sous tente et construire des lieux de culte. Nous devons fournir des efforts particuliers pour atteindre les classes les plus nanties. Ne dépensons pas toutes nos ressources et nos talents à nous occuper de ceux qui se trouvent au plus bas niveau de dégradation. L'ennemi serait satisfait d'un tel travail, puisqu'il ne serait dans ce cas pas du tout favorable à la vérité. Dieu ne désire pas que son œuvre soit réalisée de cette manière. Beaucoup d'argent et de talents sont sollicités pour peu de résultats. Un vingtième des moyens ainsi dépensés et employés là où il avait fallu aurait fait travailler des hommes et des femmes à la manière signalée par Dieu, et la vérité aurait atteint des personnes dans les ténèbres de l'erreur qui appellent et prient pour recevoir la lumière, des gens qui ont faim et soif du pain de la vie et de l'eau du salut. Ces gens seront-ils ignorés de nos plans ? Allons-nous déployer tous nos moyens et tous nos efforts pour une classe où bien peu seront conduits à la vérité ? Nous ne pouvons dépendre des convertis de ce milieu pour représenter le peuple de Dieu comme étant sage et noble. Peu parmi eux deviendront des porteurs de lumière dans le monde. Dieu ne les choisit pas comme des personnes fiables. Certains deviendront ses fils et des filles, mais le nombre sera petit comparé aux efforts mobilisés. À moins qu'on fasse attention, l'œuvre de Dieu sera enchaînée, tout comme le diable le voudrait. Si tous nos moyens étaient dépensés dans le travail en faveur des gens sans foi ni loi, dépravés et corrompus, où en serait l'œuvre à accomplir pour présenter la vérité à d'autres personnes qui représenteront correctement la vérité présente ? Comment pourrions-nous montrer que nous sommes un peuple élu, un peuple qui craigne l'Éternel et qui soit fidèle au commandement de Dieu ? Le Seigneur a un travail auprès des riches et auprès des pauvres. Il est des âmes sincères qu'il faut atteindre, et qui n'ont pas encore trop dégradé leur corps, leur âme et leur esprit au point de manquer de fermeté. Dans l'Apocalypse, les messages à délivrer au monde sont clairement déclarés. Quand les serviteurs du Seigneur failliront, comme cela arrivera, pour gagner de nouveaux membres d'Église, ils devront atteindre les personnes en tenant des camps meetings et en distribuant nos publications. La vérité présente doit resplendir de ses rayons clairs et lumineux. Allez d'abord vers ceux qui font partie de la famille de la foi, et non les dépravés, les pervertis, ceux qui se sont détruits eux-mêmes, remplissant leur âme et leur corps d'iniquité, comme le firent les antédiluviens et les habitants de Sodome. Et pourtant, c'est pour eux que le docteur Kellogg a travaillé, tandis qu'il méprisait ceux avec qui il aurait pu être en parfaite harmonie. Mon frère, je vous ai écrit plusieurs fois à ce sujet. Pourquoi, mon cher frère, avez-vous refusé d'accepter ou d'écouter la parole du Seigneur ? Pourquoi avez-vous persisté devant les avertissements qu'il vous a donnés ? Vous avez voilé le message du troisième ange, au point qu'il ait pour beaucoup perdu sa plausibilité. Je dois vous avertir de réfréner l'influence que vous pouvez exercer dans une mauvaise direction au nom du travail missionnaire médical. Faites attention, autrement ce travail sera le corps au lieu du bras du corps. Vos conclusions doivent être prudentes. Vos plans pour toute branche de l'œuvre ne doivent pas tout absorber. Vos grands projets de secourir les malheureux constitueront pour vous des responsabilités que vous serez incapables de porter. Vous déployez des efforts désespérés pour faire avancer un secteur du travail qui fera, je devrais dire qui fait déjà, de l'œuvre missionnaire médicale tout l'Évangile. On enlève de la valeur aux hommes du corps pastoral, tandis qu'on vante les initiatives missionnaires médicales. Le Seigneur m'a indiqué de vous dire qu'il faut considérer l'œuvre sous tous ses aspects pour qu'elle soit équilibrée et pas unilatérale. On attire beaucoup d'hommes au travail missionnaire médical alors qu'ils devraient se consacrer au ministère. Mon frère, vous devez vous arrêter un instant. Dieu vous a donné une tâche à accomplir. Il vous a honoré en vous plaçant au poste que vous occupez maintenant et entouré d'hommes qui coopéreront avec vous pour les mêmes intérêts du domaine de travail pour lesquels le sanatorium a vu le jour. Cette institution a une mission à accomplir en tant qu'instrument désigné par le Seigneur et y agit en vous et par vous. Il désire que le travail de la réforme sanitaire soit une première étape pour préparer le chemin à la vérité rédemptrice de notre temps, la proclamation du message du troisième ange. Mais il ne doit pas éclipser ce message, ni entraver son succès assuré, car alors vous agiriez à l'encontre de la vérité. Ce message est le dernier avertissement qui doit être proclamé au monde entier. L'œuvre missionnaire médicale doit occuper sa place légitime, comme elle aurait toujours dû le faire, dans toutes les églises de notre pays. Le sanatorium a été établi pour appeler les personnes à une connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé pour les instruire, comme Jésus t'a lui-même fait, en leur enseignant les lois du royaume de Dieu. Ceci est, et sera toujours, la seule véritable éducation supérieure. La véritable œuvre missionnaire médicale mettra en avant les agents que Dieu a mis en place dans l'Église pour prêcher l'Évangile, car c'était l'œuvre de celui qui a créé l'homme et qui lui a donné des talents à employer, une intelligence pour inventer, un cœur pour être le siège de son trône, des affections qui doivent s'écouler pour bénir tous ceux avec qui il entre en contact, et une conscience pour convaincre du péché, de la justice et du jugement parce qu'il est mu par le Saint-Esprit. Mon frère, je vous dis au nom du Seigneur que l'œuvre missionnaire médicale doit être le bras et non le corps. Il faut que le monde idolâtre connaisse le message. Il m'a été montré que beaucoup de ceux qui suivent maintenant une formation médicale devraient proclamer le dernier avertissement au monde. Dieu sera l'instructeur de ses ouvriers. L'Église du Christ est très précieuse à ses yeux. C'est l'écrin qui contient ses joyaux, le bercail de son troupeau. Il place son peuple en capacité d'église et lui confie la responsabilité d'accomplir l'œuvre missionnaire médicale qui doit être réalisée. Ils doivent servir les malades et des démunis. Beaucoup ont choisi la branche missionnaire médicale, au détriment d'autres branches. Des appels ont été lancés à des ouvriers missionnaires médicaux qui sont considérés comme un appel provenant de Dieu et ont cru qu'il serait mauvais de refuser d'y aller. Mais Dieu ne prévoit pas que ce travail absorbe tout le reste. Il y a un grand travail à accomplir dans nos camps meetings, où tous, riches et pauvres, instruits et ignorants, doivent entendre le message d'avertissement. Tout enfant de Dieu devrait posséder un jugement sanctifié pour considérer le travail dans son ensemble et la relation entre chacune des parties. Nous ne devons pas construire la tour sans d'abord considérer combien cela coûtera et quel effet son expansion aura sur les autres parties du champ. Ce grand projet ferme la voie à la construction de bâtiments nécessaires à d'autres endroits. Ce n'est pas comme si nous avions, en tant que peuple, amassé des richesses, puisqu'on nous en a constamment puisé et nous devons continuer à en donner. Les énormes bâtiments que les gens de Battle Creek et d'autres endroits ont érigés rendent témoignage contre eux car, alors qu'ils ont toutes les facilités, d'autres parcelles de la vigne du Seigneur sont stériles et désolées. Certains lieux doivent être des centres où les ouvriers peuvent être formés pour les différents champs. Nous devons avoir des centres pour l'éducation des jeunes. Ceci exigera plus d'installations qu'il n'en faudrait en d'autres endroits. Mais, pour chaque projet, calculons d'abord le coût. J'ai été appelé à considérer les choses proches et lointaines, et, en les regardant, j'ai senti ma tête tourner et mon cœur nauséeux. Dieu n'avait pas demandé à ce que les choses soient telles qu'elles sont maintenant. Ne sommes-nous pas trop prompts à passer à l'action quand Dieu voudrait que nous nous levions tels des minutemen, veillant et priant, prêts à faire ce qu'il a ordonné au moyen d'instruments consacrés? Ceux qui veulent faire quelque chose pour lui disent « Nous ferons ceci ou cela », et une ligne que tous doivent suivre est alors tracée. C'est ainsi que l'égoïsme augmente continuellement. L'homme se saisit de tous les avantages possibles, accumulant tout le matériel qu'il peut obtenir pour le travail qu'il désire, privant ses collègues de ce dont ils ont besoin. Ne permettons pas aux hommes occupant des postes importants de devenir égoïstes et ambitieux pour accumuler des bâtiments dans une seule localité. L'ordre suivant a été donné. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Si les hommes veulent travailler en suivant les directives du Christ, ils doivent avec lui se placer sous le joug, avec douceur et humilité de cœur, et en suppliant sincèrement « Seigneur, montre-moi ta voie ». Quels sont ton but et ta volonté? Et à chaque pas, demander « Suis-je en train d'essayer de vivre pour Dieu ou pour moi-même ?» Nous devons travailler et le faire avec joie. Nous négligeons souvent de le faire au moment où on a le plus besoin de notre aide et quand accomplir promptement notre devoir donnerait gloire à Dieu. Les hommes s'interposent entre Dieu et le travail qu'il aurait pu réaliser. Mes frères, abandonnez vos plans remarquables pour toute autre chose et donnez une partie de vos ressources aux champs les plus démunis. Considérez que le Seigneur est impartial dans toute son œuvre. Si vous permettez à Dieu d'intervenir dans vos pensées et les contrôler, si vous lui préparez la place et lui donnez l'occasion d'agir, des torrents de vie et de vérité s'écouleront à tous les endroits arides de la terre. Les hommes se chargent de responsabilités considérables et incessantes, ce qui surcharge l'esprit et le corps, dans leur volonté de mener des plans qu'ils ont élaborés. C'est un des plus grands inconvénients que nous devons affronter et résoudre, et cela épuisera les énergies humaines. L'activité est nécessaire dans la cause de Dieu, mais que ce talent ne soit pas utilisé à mauvais escient. Quand les hommes apprennent à être des serviteurs de Jésus-Christ, ils comprennent que, dans chaque église, il faut placer des ouvriers pour superviser le tout. Pasteurs et enseignants doivent travailler avec intelligence dans leur spécialité, en formant les membres d'église sur la manière de travailler dans la branche missionnaire médicale. Quand le Seigneur habite dans le cœur de ceux qui professent être disciples du Christ, ils agissent comme Jésus. L'inaction n'aura pas l'occasion de les engourdir, car ils auront assez à faire. Et le travail qu'ils réaliseront sous les auspices de l'Église deviendra leur plus grand moyen de communiquer la lumière. Celui qui travaille selon le plan de Dieu priera. Qu'en ce jour, par mes efforts, l'humanité souffrante sache qu'il y a un Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Qu'il voit que je travaille non pas selon ma propre impulsion et ma propre sagesse, mais selon ta parole. Quand l'homme adopte cette attitude et réalise qu'il accomplit les plans de Dieu, il dispose alors de la puissance divine qui ne connaît pas la défaite. Toute la puissance des agents de l'opposition n'auront pas plus d'effet que la paille sur l'aire de battage. Nous devons reconnaître l'entière propriété de Dieu sur nous. Notre esprit, nos talents, nos facultés et notre argent doivent être employés de la meilleure façon pour l'avancement de son œuvre, pour que son caractère soit révélé en traits clairs dans chaque partie du monde. Dieu a donné à chacun une mission, et il n'excuse pas les responsables haut placés de ne pas remplir leurs fonctions et de, par leur négligence, semer la confusion dans leur travail. Que chacun occupe la place qui lui a été attribuée et qu'il entretienne sa relation avec Dieu. Un travail important doit être accompli, et personne ne doit négliger sa tâche pour s'approprier le travail d'un autre. Dieu n'est pas honoré en cela. Certains ouvriers se sentent supérieurs en sagesse. Ils ne pensent pas avoir besoin du conseil de Dieu et ne s'occupent pas non plus de savoir si leurs collègues ont tout ce qu'il leur faut pour travailler. Dieu a besoin d'hommes tenant compte de tous les aspects de l'œuvre, d'hommes qui gardent les fenêtres de leur âme ouvertes au ciel, permettant à sa lumière de briller dans les recoins de l'esprit. Le Seigneur s'intéresse beaucoup à ses serviteurs, surtout à ceux qui sont humbles de cœur.
Dieu s'attend à ce que chacun soit fidèle dans sa gestion chrétienne de la vie. Le « moi » ne doit pas être glorifié. Celui qui est fidèle à sa mission ne s'arrêtera pas à considérer si on va le féliciter ou non pour ses efforts, mais il demandera « Est-ce que j'honore Dieu ?» Son âme sera remplie d'un saint désir de voir le Seigneur magnifié. Quand sa patience sera éprouvée, il priera « Mon âme, fais silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume 62, verset 6. Nous voulons vraiment voir que notre travail est efficace, et si nos plans et nos méthodes reçoivent l'approbation, nous sommes satisfaits. S'ils tardent, notre esprit gémit et nous ne voyons pas au-delà. L'eau doit courir librement dans nos citernes, si les autres citernes sont aussi sèches que les collines de Gilboa. Nous avons du mal à nous rappeler que la grande source provient de Dieu.
Le Seigneur nous montrera de nombreuses manières de travailler. Parfois, il sera évident que les choses qui se présenteront viendront de Dieu. À d'autres moments, elles seront contraires à nos idées et sentiments. Quelquefois, le Seigneur nous surprend en révélant notre devoir sous un jour complètement différent de ce que nous avons prévu, et nous disons « Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai ». Néanmoins, c'est bien vrai, et le message ne leur sera pas répété jusqu'à ce qu'ils puissent discerner la main de Dieu. Quand ils seront prêts pour voir et comprendre, le Seigneur leur parlera de nouveau. Si nous voulons compter sur l'appui divin, si nous voulons suivre son plan, nous devons agir en nous soumettant à la direction divine. Le Seigneur désire que nous nous soumettions à son modelage, en nous dépouillant du moi et en nous abandonnant à Dieu pour que le Christ puisse mettre son empreinte sur notre âme. Le feu ne peut brûler que quand nous purifions l'autel selon la parole de Dieu. Il ne serait pas censé, ni bien, que toute la force du corps se dirige vers une main. Ainsi, il ne serait pas bon non plus que toute la force des agents travaillant pour la cause du Seigneur soit concentrée sur l'œuvre missionnaire médicale. Il faut soutenir le ministère de la parole et le corps entier doit se mouvoir avec harmonie, toutes les parties s'unissant pour accomplir la volonté de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Tous les membres du corps doivent être des instruments actifs du Seigneur, chaque partie unie et en harmonie avec les autres. Voilà 25 ans que le Seigneur m'a révélé que nos sanatoriums étaient le meilleur moyen d'atteindre les classes plus élevées. Ces institutions doivent être situées loin des villes et être entourées d'un terrain suffisamment grand pour cultiver des fruits et des légumes. Au sanatorium que nous sommes sur le point de construire à New South Wales, il faudra des provisions pour toutes les classes sociales. Le logement et les traitements devront être tels que les patients des classes plus aisées soient attirés pour y séjourner. Les chambres devront être aménagées pour ceux qui seront disposés à payer un prix généreux. Nos méthodes de traitement devront être rationnelles. Il ne faudra donner aux patients ni boissons alcoolisées, ni thé, ni café, ni médicaments toxiques, car ils laissent toujours des effets nuisibles. Durant leur séjour au sanatorium, les patients se familiariseront avec les adventistes du septième jour et les raisons de leur foi. Médecins et infirmières feront preuve d'un intérêt profond pour les souffrances physiques de ceux qui seront sous leurs soins. Alors qu'on s'efforcera d'éradiquer la souffrance et la maladie, le cœur des patients s'attendrira. Tout médecin devrait être chrétien. Occupant la place du Christ, il doit se tenir près du patient, prenant soin des besoins tant de son âme souffrant du péché que de son corps malade. À nous, son peuple, Dieu a donné beaucoup de lumière, et nous devons chercher à accéder aux âmes pour leur communiquer cette vérité. Tout en offrant aux patients l'espoir de recouvrer leur santé physique, les médecins et les infirmières de nos sanatoriums peuvent aussi présenter la bienheureuse espérance de l'Évangile, le merveilleux réconfort qu'on trouve en ce guérisseur puissant qui peut guérir la lèpre de l'âme. Ainsi, des âmes seront touchées, et celui qui donne au corps la santé offrira à l'âme la paix. Celui qui donne la vie remplira le cœur d'une joie qui agira miraculeusement. Le sanatorium sera un monument pour Dieu si on l'administre comme il se doit, sous ses aspects. Beaucoup de ceux qui viennent au sanatorium recevront l'empreinte de la vérité, comme ça a été le cas pour la sœur Henri. Elle était une des précieuses servantes de Dieu, et grâce à la compétence qu'il vous a accordée, sa vérité a été magnifiée. C'est ainsi qu'il doit en être. Toute l'influence que vous pouvez offrir au sanatorium ne sera pas de trop. On pourrait mieux dénommer l'œuvre missionnaire médicale comme l'œuvre pour rétablir la santé. Attention à ne pas perdre le cap. La conformité au monde fait perdre le cap à beaucoup parmi notre peuple. Cette question m'affige profondément, dans la mesure où le Seigneur continue à me la soumettre. Depuis de nombreuses années, il m'a été présenté, une fois après l'autre, que les méthodes mondaines se sont introduites dans la gestion de beaucoup de nos institutions. Quand je lis les témoignages publiés au début des années 1870 et même avant, je suis surprise de voir la clarté avec laquelle ces dangers y ont été décrits et avec quelle précision la bonne voie avait été tracée, dès le commencement. Mais le chemin, si clairement indiqué, n'a pas été suivi. les hommes agissent comme si on ne leur avait jamais donné de conseils. Pourtant, nous nous attendons à ce que le Seigneur nous élève et fasse de grandes choses pour nous. Il est vrai qu'il nous aidera si nous avons confiance qu'il le peut. Mais il n'agira pas en notre faveur tant que nous tissons des brins d'égoïsme dans notre filet. Il existe parmi notre peuple une opinion, à laquelle certains s'opposent, c'est vrai, mais que beaucoup soutiennent, selon laquelle toute personne au service de Dieu serait forte, vive et innovatrice pour faire le meilleur étalage possible, indiquant par là que sa ligne de travail a du succès. Ceux qui continuent à s'accrocher à cette idée seront amèrement déçus quand, lors du jugement, ils découvriront qu'il n'y a pas de place pour eux dans le royaume de Dieu. Les faux principes ne remporteront jamais au ciel. Aucun brin d'égoïsme ne doit être tissé dans aucune partie du service de Dieu, dans son œuvre sur la terre. Des méthodes mondaines ont infiltré l'administration de nos institutions. Ceci a presque détruit notre maison d'édition à Battle Creek. Dieu n'avait pas la première, la dernière et la meilleure place en tout. Le jugement humain, les idées humaines prenaient le commandement et la direction de tout. Il déplaît à Dieu que les ambitieux soient considérés comme des hommes astucieux au regard du monde. Cependant, cette ambition est entretenue par beaucoup d'hommes à responsabilité, dans nos rangs. Nous devrions accorder une plus grande considération à l'œuvre de Dieu que celle que nous lui accordons maintenant. Elle est plus importante que ce que nous croyons. Des hommes occupant des postes à responsabilité, qui, d'une quelconque manière, se sont éloignés des principes de la Bible, ont rompu leur lien avec Dieu. Soyons déterminés à ne pas permettre que des méthodes mondaines soient introduites dans notre œuvre. Les serviteurs du Dieu vivant et les serviteurs de Satan doivent se distinguer les uns des autres, comme la lumière se distingue des ténèbres. La ligne de démarcation entre eux doit être immanquable. S'il y a un moment où ceux qui connaissent la vérité présente doivent trouver leur cap, c'est bien maintenant. Même si personne ne doit agir indépendamment de ses frères, chacun doit cependant connaître sa propre condition, ses repères exacts. La question que chacun doit se poser est : quelle est ma relation avec Dieu ? C'est la conformité au monde qui pousse notre peuple à perdre son cap. La perversion des justes principes n'est pas arrivée soudainement. L'ange de Dieu m'a présenté cette question sous forme de symbole. C'est comme un voleur qui s'approche furtivement et qui, lentement mais sûrement, dérobe l'identité de l'œuvre de Dieu en poussant nos frères à se conformer aux méthodes mondaines. Les idées humaines ont pris la place qui légitimement appartenait à Dieu. Quelle que soit la position qu'un homme puisse occuper, quelle que soit sa popularité, il doit agir comme si le Christ occupait sa place. Dans chaque détail des tâches qu'il réalise, dans ses paroles et son caractère, il doit ressembler au Christ. Le Seigneur appelle à une réforme. Partout où les croyants ont adopté des principes mondains, il désire qu'une voix d'avertissement s'élève. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix dans un cor et annonce son crime à ton peuple, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58, verset 1. En tant que peuple et individu, nous devons rejeter les principes erronés et les projets ambitieux qui nous poussent à trop embrasser dans un périmètre limité. Dieu désire que nous apprenions à marcher d'un pas assuré, en avançant toujours dans sa voie. Il veut que nous construisions chaque bâtiment en tenant compte des besoins d'autres endroits qui doivent un jour disposer des mêmes avantages. Dans aucun cas, l'œuvre de Dieu ne doit être limitée par des restrictions érigées par les hommes. Beaucoup des méthodes et des plans ambitieux mis en place n'ont pas son approbation. Il n'admet pas l'accumulation de nombreux avantages en un seul endroit. Il désire que chaque institution établie soit prête à collaborer à l'établissement de l'institution demandée à venir. Pour beaucoup, une réalisation des temps que nous vivons est aussi éloignée que le ciel l'est de la terre. Leur devoir de préparer à la rencontre du Sauveur qui vient bientôt semble être complètement oublié. Dieu veut que nous retrouvions le bon sens, que nous agissions comme des êtres rationnels qui vivent au seuil du monde éthémel. Souvenez-vous qu'en vous préparant au royaume des cieux, vous en préparez d'autres, selon les Écritures, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Hébreux 12, verset 13. Le sens moral de beaucoup est affaibli. Beaucoup n'ont pas eu les privilèges et la formation que nous avons reçus. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de recevoir une instruction, ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ésaïe 28, versets 10, 13. Dieu place de lourdes responsabilités sur ceux qui ont reçu cette instruction. Ils doivent passer beaucoup de temps en prière. Au lieu de penser que leur jugement est supérieur, ils devraient plutôt ressentir beaucoup de crainte. Au lieu de prendre sur eux-mêmes tous les fardeaux qu'ils peuvent saisir et qui ne leur laissent pas de temps pour prier et méditer sur leur propre condition spirituelle, ils devraient passer beaucoup de temps en communion avec leur Créateur. La cause de Dieu est si importante pour lui qu'il exige de chacun de nous qui déclare être son gérant de représenter convenablement son caractère. Personne, à part ceux qui marchent prudemment devant lui, n'est qualifié pour la gestion chrétienne de la vie. Le Seigneur travaille avec ceux qui représentent correctement son caractère, et c'est à travers eux que sa volonté est faite sur la terre comme au ciel. Élevons chaque jour la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et vivons-la au quotidien. Mettre cette prière en pratique est tout le devoir de l'homme. Ces principes forment la base de toute bonne action. Ceux qui appliquent chaque aspect de ces principes deviendront des hommes sensés, des hommes permettant à Dieu de guider et contrôler leurs pensées. Les débuts de l'œuvre médicale en Californie du Sud. Il m'est impossible de trouver le sommeil depuis 11h30 du soir. Beaucoup de choses, en figures et en symboles, défilent devant moi. Il y a des sanatoriums qui marchent bien, près de Los Angeles. À un endroit, il y a un bâtiment occupé et des arbres fruitiers sur la propriété. Dans cette institution, en dehors de la ville, il y a beaucoup d'activités. Dans une vision nocturne, j'ai vu les terres et ai dit « Oh, homme de peu de foi, vous avez perdu du temps !» Il y avait des malades en fauteuil roulant. Il y avait quelques patients à qui les médecins avaient prescrit de passer la journée à paire libre, quand il faisait beau, pour recouvrer la santé. Alors que je parlais, j'ai dit « Nous devons avoir des sanatoriums en des endroits privilégiés, en différentes localités. C'est le plan de Dieu. Il a décrété l'œuvre missionnaire médicale comme un moyen de sauver les âmes, et ce que nous voyons autour de nous est un symbole de la tâche qui nous est présentée. Nous devons réveiller nos églises pour qu'elles s'engagent activement dans la mission divine et pour faire progresser cette branche, l'œuvre missionnaire médicale. » Des médecins se sont intéressés à ces déclarations et l'un d'eux a dit, en étendant les bras et les bougeant d'avant en arrière, « N'est-ce pas meilleur que les médicaments ?» Les maux et les douleurs s'en sont allés sans prendre de médicaments. Sur les terres que j'ai vues en vision nocturne, il y avait des arbres faisant de l'ombre et leurs branchages descendaient de façon à former des auvents feuillus ressemblant à des tentes. Les malades étaient enchantés. Pendant que certains travaillaient pour se distraire, d'autres chantaient. Il n'y avait aucun mécontentement. Faisons maintenant en sorte que chaque dollar compte pour le choix d'un endroit pour notre sanatorium près de Los Angeles et pour commencer le projet. Nous avons besoin d'hommes au jugement solide, d'hommes pouvant estimer les coûts et faire des plans judicieux. Le Seigneur désire que les hommes marchent humblement devant lui. Ce serait une erreur d'acheter ou de construire de grands bâtiments pour le sanatorium dans les villes de la Californie du Sud. Et ceux qui voient un avantage à le faire n'agissent pas avec prudence. Il faudra travailler beaucoup pour préparer ces villes à recevoir le message de l'Évangile. Mais ce travail ne doit pas être entrepris en y érigeant de grands édifices pour mener à bien une initiative spectaculaire. Désapprobation des plans pour construire un bâtiment à Los Angeles. Selon la lumière que j'ai reçue concernant les sanatoriums où des malades seront traités, je ne puis offrir de recommandations nous conseillant de nous rassembler en ville. Je ne puis le faire moi-même, même si d'autres pourraient avoir une opinion bien différente. Mais, selon la lumière que j'ai reçue, je ne puis conseiller d'ériger un édifice en ville. Je sais que vous êtes en dehors, dans une zone contiguë. Cela change un peu la proposition, mais je ne peux rien dire de plus, ni vous donner de conseils. Il vous faudra arranger cela entre vous, car je ne suis pas en mesure de donner des conseils concernant la construction d'un sanatorium dans aucune ville. Je ne puis le faire, puisqu'il m'a clairement été présenté que, quand on construit un sanatorium, il doit être situé là où il peut remplir l'office pour lequel il a été établi. L'objectif en vue n'est pas de gagner de l'argent, mais, et surtout, de gagner des âmes, de s'occuper de ceux qui souffrent de maladies et de les placer dans les meilleures conditions possibles pour recouvrer la santé. Nous n'avons aucune confiance dans les médicaments. Dieu veut que nous soyons situés là où nous bénéficierons des bienfaits de la nature, sous tous ses aspects, à l'air libre et dans un cadre agréable. Si nous pouvons trouver un endroit qui soit en partie ou totalement terminé, ce sera mieux que de construire un grand bâtiment maintenant même, alors que nous savons que la fin est proche et que chaque ville sera sous tous les aspects sans dessus-dessous. La confusion y régnera. Tout ce qui peut être secoué le sera, et nous ignorons ce qui arrivera ensuite. Les jugements tomberont selon la méchanceté des habitants et selon la lumière de vérité qu'ils auront reçue. S'ils l'ont reçue à un moment donné, le châtiment sera proportionnel à cette lumière. Jésus a prononcé ses malheurs sur les villes qui ont reçu la plupart de ses enseignements. C'est pourquoi je crains tant qu'on construise un grand bâtiment à Battle Creek ou à n'importe quel endroit où la vérité est connue depuis des années. Accepter l'argent de gens qui n'ont pas embrassé la vérité, de l'argent pour nous aider à construire le sanatorium, je ne vois aucune lumière à ce sujet. Ici, vous pourriez dire que la lumière ne luit pas depuis si longtemps. Non, c'est vrai, mais toujours est-il que nous avons reçu l'instruction de situer les sanatoriums en dehors des villes. Dieu a un objectif en vue. Il a déclaré aux enfants d'Israël que, quand les plaies arriveraient, ils devraient sortir des maisons des Égyptiens pour entrer dans les leurs, car, s'ils se trouvaient mêlés aux Égyptiens, ils seraient détruits avec eux. Ils devaient être un peuple à part. Nos institutions devraient donc posséder tous les avantages possibles, non pas dans la mesure de bâtiments imposants, mais dans leur localisation. Les bâtiments n'ont pas la moitié de l'importance de l'espace et des terres autour d'un sanatorium. C'est là qu'il devrait y avoir des arbres fruitiers, des fleurs et tous les bienfaits dont on puisse profiter. C'est ce que j'ai écrit, et vous connaissez bien cela. Ce conseil a autant de force que quand je l'ai écrit. Je ne vois rien me poussant à changer mon opinion concernant Los Angeles sur ces points. Les dirigeants du sanatorium se sont mêlés aux incrédules, les admettant plus ou moins dans leur comité, mais cela est comme travailler les yeux bandés. Il manque de discernement pour voir ce qui va déferler sur nous à tout moment. On constate un esprit de désespoir, un esprit belliqueux et sanguinaire, et cet esprit augmentera jusqu'à la fin des temps. Aussitôt que le peuple de Dieu recevra le sceau sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ni d'une marque visible, mais d'un affermissement dans la vérité, tant au niveau intellectuel que spirituel, au point de ne pas être ébranlé, et qu'il sera prêt pour le criblage, ceci arrivera. En fait, cela a déjà commencé. Les jugements de Dieu sont déjà sur la terre pour nous avertir afin que nous sachions ce qui va arriver. À aucun moment le Seigneur ne nous a guidés dans les grands projets qui ont été menés pour les bâtiments à Los Angeles. Il nous a accordé la lumière sur la manière d'avancer, mais des démarches effectuées restent contraires à la lumière et aux instructions données. Les plans complets d'acheter du terrain à Hill Street ne m'ont pas été montrés avant ma dernière visite à Los Angeles. Puis, on m'a emmené voir cette propriété et, tandis que je montais la colline pour y accéder, j'ai clairement entendu une voix que je connaissais bien. Si cette voix avait dit « Voici l'endroit que le peuple de Dieu doit acheter », j'aurais été bien étonné. Mais cette voix a dit « N'encourage ici aucune installation, quelle qu'elle soit. Dieu l'interdit. Mon peuple doit s'éloigner d'un tel milieu. Cet endroit est aussi méchant que Sodome. Le lieu où mes institutions sont établies doit être totalement différent. Quittez les villes et comme Enoch, sortez de votre retraite pour avertir les gens des villes. » Il m'a été dit, la main divine ne guide pas les démarches entreprises concernant cette propriété. La vision spirituelle des hommes s'est obscurcie. On a élaboré des plans que le Seigneur n'a pas inspirés. On m'a ensuite indiqué que toute cette question était inspirée par la sagesse humaine. Les hommes ont suivi leur propre sagesse, qui est folie devant Dieu, et qui, s'ils continuent dans ce sens, conduira à des résultats qu'on ne voit pas pour l'instant. Leur vue spirituelle a été brouillée. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Matthieu 6, verset 22. le Seigneur interpelle les responsables de son œuvre en Californie du Sud et leur dit d'appliquer sur leurs yeux le collier du ciel. C'est là leur seule sécurité. Je suis stupéfaite de constater que nos frères aient pensé acheter le terrain de Hill Street. Quand j'ai vu où il était situé, j'ai su que je ne pourrais pas même un instant donner mon consentement pour y établir aucune institution d'aucune sorte. Établir une institution pour le progrès de l'œuvre de Dieu en un tel endroit serait contraire à la lumière que le Seigneur a donnée concernant ce travail. Pensez aux inconvénients auxquels les ouvriers devraient faire face. Pendant combien de temps pourraient-ils observer le sabbat en paix avec cet énorme autel juste à côté d'eux ? Établir là un sanatorium serait pour nous pareil à Lot qui se rend à Sodome. Ce serait même pire, puisque les alentours de Sodome étaient comme le jardin d'Éden. Mais, sur la parcelle de Hill Street, il n'y a ni espace libre, ni la possibilité de contempler les beautés de la nature. La construction de la boulangerie à Los Angeles a été prématurée. L'œuvre n'était pas prête pour cela. Si les yeux des frères avaient été oints du collier céleste, ils n'auraient pas agi comme ils l'ont fait. L'établissement d'une boulangerie aussi grande et l'exécution du travail planifié représentent l'investissement de moyens et de talents dont ils ne disposaient pas. Le peuple de Dieu ne doit pas avancer à l'aveuglette en investissant des moyens qu'il n'a pas et qu'il ne sait pas où trouver. Nous devons faire preuve de sagesse dans les démarches que nous faisons. Le Christ a mis devant nous le plan à suivre pour mener son œuvre. Ceux qui désirent construire doivent d'abord s'asseoir et estimer les coûts pour voir s'ils sont capables de mener la construction à son terme. Avant de commencer l'exécution de leur plan, ils doivent demander l'opinion de sages conseillers. Si un ouvrier, incapable de raisonner de cause à effet, court le danger d'agir de façon imprudente, ses collègues doivent lui parler avec mesure pour lui montrer son erreur. Dieu voit la fin dès le commencement. À moins que l'opinion des ouvriers ne soit unanime et que les frères ne partagent les responsabilités, il ne voudra pas qu'on construise un seul bâtiment pour notre œuvre. Tous doivent avoir la satisfaction que leurs plans sont en harmonie avec la volonté divine. Que les comités de notre peuple soient conduits en vue d'un travail sérieux et dynamique. Mais qu'aucune pierre ne soit posée pour entamer un nouveau projet tant que les ouvriers ne l'aient pas entièrement compris. Sur ces questions, la responsabilité individuelle ne fait pas partie du plan de Dieu. Certaines des décisions prises pour l'œuvre en Californie du Sud n'ont pas été inspirées par Dieu, et ses décisions ont laissé une ombre sur son œuvre. Mais les erreurs commises peuvent être pour le bien si elles sont acceptées pour démontrer le besoin de tout être qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu et à son progrès. Toutes les branches de l'œuvre doivent être menées en faveur de son existence. Le Seigneur appelle les ouvriers de la Californie du Sud à l'action, mais à ne faire aucun mouvement qui le gênerait dans l'accomplissement de ses propres desseins. Nous devons nous attendre à Peutemel et apprendre de lui pour faire progresser l'œuvre en Californie du Sud. Ne faisons pas de mouvements précipités, mais attendons patiemment jusqu'à ce que le Seigneur prépare la voie devant nous. Il m'a été révélé que le docteur Kellogg a conseillé aux frères d'aller de l'avant et de construire dans la ville de Los Angeles. Mais ne sait-il pas que le Seigneur a donné des instructions concernant le besoin de sortir des villes ? Dans la mesure du possible, nos institutions doivent se trouver loin d'elles. Il nous faut des ouvriers pour ces institutions, et si elles se trouvent en ville, cela veut dire que leurs familles devront s'installer tout près. Mais il n'est pas de la volonté de Dieu que notre peuple s'installe dans les villes où règne en permanence l'agitation et la confusion. Il faut éviter cela à leurs enfants, car tout le système humain est affaibli par la hâte, la précipitation et le bruit. Le Seigneur veut que son peuple vive à la campagne, où il peut s'établir sur une terre et cultiver ses propres fruits et légumes, et où ses enfants peuvent être en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Mon message est que vous éloignez vos familles des villes. Que les hommes l'écoutent ou non, la vérité doit être exprimée. Les villes sont remplies de tentations. Nous devrions planifier notre œuvre de manière à ce que nos jeunes soient éloignés le plus possible de cette pollution. Il faut travailler dans les villes à partir d'avant-postes. Le message de Dieu a dit « Les villes ne seront-elles pas averties ?» Oui, mais non pas par le peuple de Dieu qui y vit, mais par leurs visites et leurs avertissements de ce qui va arriver sur la Terre. Nos restaurants doivent se trouver dans les villes. À ce sujet, il m'a été indiqué que trop d'efforts sont déployés pour avoir un grand restaurant en ville. Le Seigneur préférerait que nous en ayons plusieurs, mais plus petits. Il désire qu'un travail soit effectué auprès de ceux qui y sont servis. Ce qui compte est de semer la semence de la vérité et non d'obtenir un grand nombre de clients. Les chiffres ne sont pas un véritable révélateur du succès. Ces mots ont été prononcés. Ne vous flattez pas qu'un grand nombre de personnes viennent chaque jour au restaurant et qu'ainsi vous faites de grands progrès dans l'œuvre. Que faites-vous pour sauver les âmes? Vous rassemblez en grand nombre et les nourrissez à un prix trop bas. Vous employez vos assistants en leur payant un maigre salaire. Quel encouragement reçoivent-ils au service de Dieu? Notre instructeur s'est tourné vers les hommes chargés du restaurant de Los Angeles et a dit: vous rendez-vous compte que votre travail a été pesé sur la balance et a été trouvé léger? Le fait de servir un grand nombre de personnes chaque jour ne veut pas dire que vous accomplissez le plus grand bien. Ne vaudrait-il pas mieux un plus petit nombre et travailler à leur salut selon des méthodes bien définies? Ne vous vantez pas des chiffres. Où sont les âmes qui ont été amenées à s'intéresser à la vérité présente? Et que dire de vos assistants? Deviennent-ils indifférents à la vérité? Si tel est le cas, et qu'aucun effort n'est fait pour leur accorder une aide spirituelle, ainsi qu'à ceux qui viennent chaque jour prendre leur repas, il vaudrait mieux alors que des non-croyants se chargent de cette entreprise, car cela n'exercerait pas d'influence négative contre la vérité. Mes frères, continuez votre travail d'une façon qui fortifie les âmes contre la tentation, au lieu de les conduire à la tentation. J'ai toujours considéré avec un grand intérêt l'œuvre à Los Angeles et à San Diego, en espérant que de bonnes décisions seraient prises et que le travail du sanatorium serait établi en ces endroits importants. Chaque année, de nombreux touristes visitent ces villes, et j'ai désiré voir des hommes inspirés par le Saint-Esprit atteindre ces gens avec le message proclamé par Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2. Le Seigneur a ordonné que des monuments à son nom soient établis en de nombreux endroits. Il m'a montré des bâtiments éloignés des villes et agencés pour notre œuvre et qu'on peut acheter à bas prix. Profitons des occasions favorables pour l'œuvre des sanatoriums en Californie du Sud, où le climat est si favorable à ce travail. Le dessein de Dieu est qu'on établisse des sanatoriums en Californie du Sud et que de ces institutions émane la lumière de la vérité pour notre temps. À travers elles, on pourra présenter l'observation du vrai sabbat et proclamer le message du troisième ange. Les institutions dans lesquelles on peut réaliser le travail missionnaire médical doivent être considérées comme spécialement essentielles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les malades et les souffrants seront soulagés et alors, quand l'occasion se présentera, ils recevront un enseignement concernant la vérité pour notre temps. Ainsi, nous apporterons la vérité présente à une classe de personnes qui ne pourraient être atteintes autrement.
Un travail particulier doit être maintenant accompli, un travail d'importance suprême. J'ai reçu la lumière concernant l'établissement d'un sanatorium près de Los Angeles, dans une zone rurale. Pendant des années, le besoin d'une telle institution a été présenté à nos membres, en la Californie du Sud. Si ses frères avaient écouté les avertissements donnés par le Seigneur pour leur éviter des erreurs, ils ne se trouveraient pas maintenant liés comme ils le sont. Mais ils n'ont pas suivi les instructions données. Ils n'ont pas avancé par la foi pour établir un sanatorium près de Los Angeles. Les bâtiments dédiés à cette œuvre devraient se trouver en dehors des villes, à la campagne, pour que les malades puissent bénéficier de la vie en plein air. La beauté des champs et des fleurs permettront à leur esprit de se détendre, oubliant leurs souffrances et douleurs, et ils seront alors invités à transporter leur regard de la nature au Dieu de la nature qui la parée d'aussi abondante beauté. Les convalescents pourront s'allonger à l'ombre des arbres et les plus forts pourront, s'ils le désirent, travailler parmi les fleurs, en faisant peu au départ, puis en intensifiant leurs efforts à mesure qu'ils reprendront des forces. Les patients seront grandement bénis en travaillant dans le jardin, en ramassant des fleurs et des fruits, et en écoutant les oiseaux qui louent le Seigneur. Les anges de Dieu s'approcheront d'eux et ils oublieront leur peine.
la mélancolie et la dépression les quitteront. L'air pur, le soleil et l'exercice physique leur apporteront vie et vitalité. L'esprit et les nerfs fatigués trouveront soulagement. Les bons traitements et une nourriture saine les affirmeront et les fortifieront. Ils ne sentiront pas le besoin de médicaments nocifs pour la santé, ni de boissons toxiques. La volonté de Dieu est d'établir un sanatorium à un endroit approprié, près de Los Angeles. Cette institution doit être administrée prudemment et fidèlement par des hommes qui ont un clair discernement spirituel et qui ont aussi le sens des affaires, des hommes pouvant faire progresser l'œuvre avec succès en tant que fidèles intendants. Nous devons travailler sous le conseil du grand maître d'œuvre. Avec sa force, les êtres humains peuvent suivre et suivront un plan d'action qui gagnera des âmes à Jésus. De sérieux efforts doivent être déployés pour l'établissement d'un sanatorium près de Los Angeles. Pendant longtemps, notre peuple de la Californie du Sud a reçu les messages du Seigneur selon lesquels il faudrait un sanatorium près de Los Angeles. Nous voyons depuis longtemps l'importance d'établir un sanatorium près de Los Angeles. Le Seigneur m'a souvent indiqué que nous devrions profiter des occasions providentielles pour acquérir des bâtiments adaptés pour les travaux d'un sanatorium, en des endroits favorables, loin des villes. Il m'a été montré que les quartiers urbains, comme on en trouve à Los Angeles, sont impropres à l'œuvre spéciale des sanatoriums. Ceci a été signalé bien clairement à l'époque où les ouvriers de Los Angeles prévoyaient, il y a quelques années, de construire un grand sanatorium dans un des quartiers les plus effervescents et bruyants de la ville. La lumière qui m'avait alors été donnée était « Éloignez-vous des villes ». Il m'a été montré que, si nous étions attentifs et si nous cherchions, nous trouverions des propriétés adéquates dans des localités retirées.